Chapitre 10. La crise est imminente. Une semaine s'était écoulée sur la seconde fondation, et le premier orateur, le visage souriant, regardait une fois de plus l'étudiant. Vous devez avoir là des résultats fort intéressants, si j'en juge par vos signes extérieurs de colère. L'étudiant posa la main sur la liasse de papier où il avait consigné ses calculs. Êtes-vous sûr que le problème corresponde à la réalité des faits?
Les prémices sont exactes.
Je n'ai rien déformé. Dans ce cas, me voilà bien forcé d'accepter les résultats, pourtant je m'y refuse.
Naturellement.
Mais que viennent faire vos désirs en l'occurrence?
Allons, dites-moi ce qui vous trouble.
Non, non. Laissez vos calculs de côté, je les soumettrai plus tard à l'analyse. Parlez plutôt que je puisse juger de la façon dont vous avez compris le problème.
Eh bien, voilà, orateur.
À l'évidence, un changement fondamental est intervenu dans la psychologie de base de la première fondation. Aussi longtemps qu'ils ont connu l'existence d'un plan Seldon sans être informés d'aucun de ses détails, ils sont demeurés confiants, mais manquaient de certitude. Ils étaient assurés de la victoire finale, certes, mais ils ignoraient où et quand elle devait se produire, d'où une atmosphère de tension et d'angoisse permanente, très précisément le résultat attendu par Seldon. En d'autres termes, on pouvait donc compter sur la première fondation pour qu'elle travaille à pleine puissance.
« La métaphore n'est pas des plus heureuses, » dit le premier orateur. « Mais je vois où vous voulez en venir. »«
Toutefois, orateur, ils sont désormais au courant de l'existence de la seconde fondation, par des détails, certes, mais qui leur apportent autrement plus de certitude que les vagues allégations d'un autre âge attribuées à Seldon. Ils ont comme une intuition des fonctions que cette autre fondation assume en tant que gardienne du plan. Ils savent qu'un organisme existe, qui épie leurs moindres mouvements et ne les abandonnera pas. » Si bien qu'ils arrêtent de ramer et se laissent désormais tranquillement porter par le courant. Désolé, encore une métaphore.
Ça ne fait rien.
Continuez. Et ce renoncement à tout effort, cette inertie croissante, cette déchéance dans la mollesse et les douceurs d'une culture hédoniste signifient la ruine du plan. Il est absolument nécessaire qu'ils retrouvent le sens de l'effort et de l'initiative.
C'est tout?
Non. Ce n'est pas tout, justement. Je viens de vous exposer les réactions de la majorité. Mais il existe, selon toute probabilité, une minorité dont les réactions sont différentes. La conscience de notre tutelle suscitera chez certains non point de la complaisance, mais de l'hostilité. Ceci découle du théorème de Korolev.
Oui, oui. Je sais, je connais ce théorème.
Veuillez me pardonner, orateur, j'aimerais éviter le langage mathématique, mais ce n'est pas toujours possible. Quoi qu'il en soit, il résulte que non seulement l'effort de la Fondation se dilue, mais encore qu'une partie de ses membres entreprend des actions hostiles à notre égard.
Cette fois-ci, vous avez terminé?
Reste un autre facteur dont la possibilité est relativement faible.
Très bien. Et quel est-il?
À l'époque où la première fondation consacrait toute son énergie à combattre l'Empire, où ses vaisseaux n'avaient à lutter que contre d'énormes rafiaux démodés et maladroits qui avaient survécu au désastre par miracle, l'intérêt de ses membres était uniquement accaparé par les sciences physiques. Mais avec l'influence nouvelle et sans cesse grandissante que nous exerçons sur leur environnement, il est possible qu'ils soient amenés à réviser radicalement leurs perspectives. Ils pourraient bien, à leur tour, tenter de devenir des psychologues.
Ce changement-là est déjà intervenu,
répondit alors froidement le premier orateur. L'étudiant pinça nerveusement les lèvres. Alors tout est perdu. Nous sommes en présence d'une incompatibilité fondamentale avec le plan. Aurais-je pu m'apercevoir de cette évolution, orateur, si j'avais vécu à l'extérieur?
Vous vous sentez humilié, mon garçon,
dit le premier orateur avec le plus grand sérieux.
Vous aviez l'impression d'avoir si bien compris tant de choses. et soudain vous vous apercevez que les arbres vous cachaient la forêt. Vous vous preniez pour l'un des seigneurs de la galaxie et voilà que vous foulez l'extrême bord du précipice. Bien entendu, vous rejetterez le blâme sur cette tour d'ivoire dans laquelle vous avez vécu, l'atmosphère claustrale qui a présidé à votre éducation, les thèses dont vous avez été nourri. J'ai ressenti autrefois la même déception. Rien de plus normal. Il était nécessaire que pendant votre période de formation, vous n'ayez aucun contact direct avec le reste de la galaxie, que vous demeuriez ici, où l'on vous distille la quintessence du savoir, où l'on aiguise avec soin votre esprit. Nous aurions pu vous avertir plus tôt de ce semi-échec du plan, et vous épargner le choc qui vous ébranle en ce moment, mais vous n'en auriez pas saisi la pleine signification, comme vous êtes maintenant en état de le faire. Alors, vous n'envisagez vraiment aucune solution au problème ? L'étudiant hocha négativement la tête. Au comble du désespoir, il répondit « Aucune. » Voilà qui n'est guère surprenant. Écoutez-moi, jeune homme. Depuis plus d'une décennie, nous avons décidé d'une ligne d'action. Et nous l'avons suivie. Elle offre un caractère inhabituel. Mais ce sont les circonstances qui nous l'ont imposée. Et nous l'avons appliquée à notre corps défendant. Elle met en jeu de faibles probabilités des hypothèses hasardeuses. Nous avons même dû à l'occasion faire intervenir des réactions individuelles, parce que nous ne pouvions faire autrement. Et vous savez pourtant que la psychostatistique, par essence, n'a plus aucune signification lorsqu'on l'applique sur des échelles inférieures aux grandeurs planétaires. Nous serions donc sur la voie du succès ? Haleta l'étudiant. Il est encore trop tôt pour le dire. Jusqu'à présent, nous avons pu assurer la stabilité de la situation, mais pour la première fois dans l'histoire du plan, les actions imprévisibles par nature d'un individu isolé risquent de tout faire échouer. Nous avons ajusté la mentalité d'un certain nombre d'étrangers en fonction de nos besoins. Nous possédons des agents sur place, mais leur action est planifiée. Ils n'osent pas improviser. Cela doit vous paraître évident. Je ne vous cacherai pas le pire. Si nous sommes découverts, ici, sur ce monde, ce ne sera pas seulement le plan qui sera détruit, mais nous-mêmes, nos personnes physiques. Vous le voyez, notre solution n'est pas des meilleures. Mais le peu que vous avez bien voulu m'exposer ne ressemble pas du tout à une solution, mais plutôt à une conjecture désespérée.
Non. Disons plutôt une conjecture intelligente.
À quel moment se produira la crise, orateur? Quand saurons-nous si nous avons réussi ou non?
Avant la fin de l'année, sans aucun doute.
L'étudiant considéra la réponse, puis hocha la tête. Il serra la main de l'orateur.
Eh bien, j'aime encore mieux le savoir.
Il tourna les talons et s'en fut. À travers la fenêtre qui reprenait peu à peu sa transparence initiale, le premier orateur regardait en silence, par-delà les gigantesques bâtiments de la cité, le ciel calme et criblé d'étoiles. Une année serait vite passée. Serait-il encore seulement en vie dans un an? Et qu'adviendrait-il de l'héritage de Seldon? Allait-il disparaître avec eux ?